La créativité est la clé pour tout enfant souffrant de dyslexie, ou pour quiconque d'ailleurs. Orlando Bloom, acteur britannique, né le 13 janvier 1977 à Canterbury. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos adultes.
Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le 4 décembre 2021, en nombre restreint. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien, dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Notre thème du jour, 10, et les moyens mis en place. Pour cela, nous recevons au téléphone Nathalie Manguini, professeure à Nice et qui a rejoint l'équipe Être Prof. Nathalie, pourrais-tu te présenter ?
Bonjour, Nathalie Manguini, je suis professeure des écoles, je suis également formatrice d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. Et je m'intéresse plus particulièrement, j'ai une spécialité sur les enfants à besoins éducatifs particuliers.
Très bien. Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du jour ?
Alors, comme tu l'as dit, Gérard, donc 10, c'est les moyens mis en place. Alors, une émission spéciale avait eu lieu en 2019 sur le même thème, ce qui avait permis d'expliquer l'handicap 10, puis de mettre en avant des aides existantes pour faciliter les apprentissages. Nous avions enregistré à l'époque l'association 10 DFD de l'Oise par le biais de Marie-Pierre Germain, qui représentait les parents ayant en charge un enfant 10. Alors, je vais juste dire que Marie-Pierre a arrêté donc son association et donc formé au niveau de l'Oise, ils ont regroupé donc plusieurs associations 10 qui s'appellent 70 et je vous donnerai les coordonnées, ils ont un Facebook, c'est facile de les trouver. Alors cette fois-ci, nous vous proposons de voir l'envers du décor avec des professeurs motivés comme Nathalie que nous avons donc au téléphone pour monter des actions et des aides pour des professeurs dans le besoin ou en recherche d'informations. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des troubles 10, hein, rappeler qu'est-ce qu'un enfant 10. Alors, le préfixe 10 indique un dysfonctionnement, un trouble spécifique du langage et des apprentissages. Nous avons donc plusieurs catégories, la dyslexie, la dysorthographie, donc c'est un déficit en langage, écriture, lecture et orthographe. La dyspraxie, ce sont un problème au niveau des gestes et de la coordination. La dysphasie, c'est un déficit au niveau du langage oral, mais aussi d'autres manifestations induites de ces troubles, comme la dyscalculie, le problème au niveau arithmétique, numération. La dysgraphie, donc là, c'est vraiment un problème au niveau de l'écriture, et on y rajoute aussi dans ce groupe les troubles de l'attention, TDA. Alors, est-ce que j'ai bien expliqué la situation, Monique, ou est-ce que Nathalie, ou est-ce qu'il faut rajouter quelque chose sur qu'est-ce qu'un enfant 10 ?
Non, c'est bien vu, c'est ça, en fait, institutionnellement, c'est ça.
Bon, voilà.
Les choses évoluent tout le temps, mais c'est ça. Ça donne une bonne idée de du terrain, quoi.
De cet handicap, effectivement. Mmh. Alors, comment, en tant que professeur, tu constates un trouble chez un enfant ? Parce que parfois, le trouble ne se détecte pas de manière évidente.
Alors, non. Mais je dirais que j'ai envie de dire que là, il faut ne pas se sentir déjà seul au monde, croiser les regards. La première chose, c'est que quand on perçoit qu'un enfant a des différences, peut-être des difficultés à l'écriture, une certaine lenteur, etc. On va essayer de s'intéresser à ses fonctions exécutives en tant qu'enseignant, voir à laquelle de ses fonctions exécutives, donc on parle de mémoire de travail, de contrôle des impulsions, de contrôle des émotions, de flexibilité mentale, de planification, d'organisation. On va voir quelles sont ces fonctions qui sont touchées plus particulièrement pour essayer de proposer des stratégies adaptées pour pouvoir pallier. Et pour être sûr, dans la classe, on peut se donner le temps de l'observation tout d'abord, qui est très important, et puis essayer de croiser les regards avec d'autres personnes, d'autres collègues qui peuvent venir observer en classe, et puis après, éventuellement, croiser les regards avec les parents, croiser les regards avec les spécialistes qui suivent les enfants.
D'accord. Croiser les regards, effectivement, je pense que c'est le principal, avoir plusieurs avis. Mais quels sont les... Je crois que Gérard avait peut-être une question à te poser.
Oui. Comment s'établit le contact avec les parents quand vous déterminez qu'un enfant a un problème?
Comment pouvoir... nous, on n'est pas enseignants, on n'est pas aptes à poser des diagnostics. Donc, on va repérer des difficultés. On va repérer des lenteurs ou de l'impulsivité. Donc, lors d'un rendez-vous avec les parents, l'enseignant peut, soit en rendez-vous avec les parents, soit, si c'est vraiment prégnant dans la classe, demander une équipe éducative. Donc, il y a ces deux biais-là d'abord, d'entrée. On rencontre les parents, en général d'abord en tête-à-tête, l'enseignant, puis après, on fait une équipe éducative au cours de laquelle il peut y avoir un enseignant référent, le chef d'établissement, les parents. Et peut-être des spécialistes si déjà l'enfant voit des spécialistes. Et on essaye de parler justement du profil de l'enfant, d'affiner le profil de l'enfant. Est-ce qu'il est, on essaie de savoir à la maison, est-ce qu'il est comme ça à la maison? Parce que souvent un enfant qui est 10, il est né 10, et il sera toujours 10. Et donc on va retrouver des choses en dehors de l'apprentissage, qui ne sont pas forcément scolaires.
D'accord. Mais pour les professeurs, quels sont les moyens de repérage? Parce que toi, Nathalie, tu es formatrice en plus, donc ça doit énormément être beaucoup plus simple aussi. Tu as du métier. Qu'est-ce que tu préconises aux jeunes professeurs?
Alors, on parle d'un faisceau. Hein, les 10, c'est tout un faisceau. Donc, oui. C'est pas la même chose pour un dyslexique, pour un dyspraxique. Si je parle d'un dyspraxique, c'est plus évident parce que ça touche les gestes de la praxie. Donc, ça va être un enfant qui va se cogner un peu partout dans la classe, qui va laisser tomber des outils, qui va, voilà. Donc là, tout de suite, on se dit, tiens, est-ce qu'il le fait exprès ou pas? On l'observe, on voit qu'il ne le fait pas exprès. Et on commence à se poser des questions. Et du coup, voilà, pas un enfant dyslexique, il va avoir du mal à mémoriser certaines choses. Il va avoir, va prendre un mot pour un autre, petit. En maternelle, ça, on ne peut pas poser de diagnostic encore, mais on commence à avoir des difficultés. Un enfant qui ne va pas pouvoir mémoriser une consigne, par exemple, ou un enfant qui va avoir des réticences à l'écriture, parce que ça, c'est un geste qui lui est compliqué.
D'accord. Il y a Jackie qui va lire un petit texte.
Oui, concernant une personne, Orlando Bloom, donc, qui a confié être dyslexique. Interviewé par le New York Daily News, Orlando Bloom a parlé de son combat contre sa dyslexie. « C'est encore une bataille que je n'ai pas gagnée », a-t-il confié. « J'ai plus de mal à étudier mes scénarios et à mémoriser mes répliques que la plupart des autres acteurs. » Depuis tout petit, l'acteur connaît ce handicap, mais il peut compter sur le soutien de sa mère qui l'a toujours encouragé. Ma mère avait l'habitude de me dire « Si tu lis 50 livres, je t'achèterai une moto ». Donc ça m'a poussé à lire énormément et à travailler ma dyslexie. Mais je n'ai jamais eu lu 50 livres. Si je n'ai jamais eu une moto, a plaisanté Lord Bloom. Sa dyslexie ne l'aura pas empêché d'exercer sa passion et de connaître de nombreux succès, tels que Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux ou encore Troie.
Voilà, alors moi ma question suite à ça, c'est comment intervenir auprès de l'enfant pour lui parler de son handicap, comment vous vous y prenez au niveau des professeurs et comment le rassurer, l'encourager. Là on voit bien, admettons qu'Orlando Bloom qui était dyslexique, il a quand même réussi à, voilà, la motivation.
Alors d'abord, j'ai envie de dire en préambule qu'on n'est pas dyslexique, on est un être humain. Et on est atteint d'un trouble, comme d'autres personnes ont les yeux bleus. Et donc, il ne faut pas faire de l'enfant son trouble. Il ne faut pas faire du trouble l'enfant. Du coup, c'est important, bien sûr, de parler avec l'enfant de ses troubles, mais il n'est pas que ses troubles. Donc, l'important, c'est aussi de valoriser tout ce qu'il sait faire en dehors de son trouble, pour qu'il prenne confiance en lui. Parce que l'enfant, lui, il a conscience qu'il est un peu en décalage. Donc, il a cette tendance un peu à ne pas avoir confiance en lui face au groupe. Donc, il y a bien sûr cela. Il y a la manière dont on s'adresse à ces enfants particuliers qui peut aussi avoir une influence sur le reste du groupe classe. Et donc, là, tout va résider en notre prise en compte du trouble sans en faire une stigmatisation. Voilà, donc... Moi, j'ai envie de, par exemple, ces enfants particuliers, hein, parce que dans ces enfants particuliers, il n'y a pas que les enfants 10, hein, il y a, bon, comme vous avez dit, là, les TDAH, mais il y a tous les autres troubles associés, les troubles du spectre autistique, il y a les enfants qui ont des hauts potentiels, tous ces enfants-là sont hors normes. Donc, on va bien sûr avoir un entretien avec eux, en particulier, d'abord. Pour les rassurer, pour leur dire que bah, ça va aller, qu'on est content de les avoir dans notre classe. Ça, je pense que c'est très important pour les enfants. Et puis, au sein de la classe, adapter sa pédagogie, accorder peut-être plus de temps, développer d'autres outils, permettre aux enfants 10 de manipuler, d'avoir des référentiels imagés. Ça va leur permettre d'avoir un meilleur accès à l'information. Et ces référentiels-là, je ne vais pas les donner qu'à l'enfant 10, je vais les donner à toute la classe, ça va servir tout le monde. Ce qui fait qu'on n'est pas dans la stigmatisation voilà. du trouble, mais on est vraiment dans l'accessibilité. On rend sa classe accessible à tout le monde.
Mais est-ce qu'on explique à la classe les problèmes de l'enfant ?
C'est ce que je voulais dire, ouais.
Alors, tout va dépendre bien de l'âge des enfants, mais on peut le faire, et il faut le faire de façon assez subtile quand même, pour ne pas le stigmatiser, pour ne pas qu'il soit stigmatisé. Parce que lui, l'enfant, il a envie de réussir, il n'a pas forcément envie... d'être celui qui, vous voyez. Donc, je pense que c'est du cas par cas, c'est du pointillisme quelque part, si je fais une comparaison avec l'art. Mais forcément, si la situation le nécessite, on va le faire. On peut très bien aussi le dire en préambule que sa classe est une classe accessible et que bah, tout le monde dans la classe va à un moment donné de l'année avoir un problème ou un autre, et que ben, on instaure une discipline de classe, un cadre, voilà, qui va permettre à tous les enfants d'accueillir tous ses camarades, quelle que soit sa différence.
Et comment ils réagissent en général, les enfants ?
Eh bien, les enfants réagissent super bien. La plupart du temps, ils vont être plus patients quand ils savent, en fait. Quand ils savent que le copain a une difficulté, ben, ils vont être plus patients que si on ne leur dit pas. Et qui trouvent que bon, il va un peu doucement, par exemple, ils peuvent s'énerver, tandis que s'ils savent que le copain est en train de se battre contre quelque chose, ils vont peut-être l'aider. Ils vont facilement mettre en place, on peut mettre en place du tutorat d'un copain à un autre. Et si c'est physique, j'ai actuellement dans ma classe un petit garçon qui a une difficulté motrice, eh bien, c'est naturellement que les autres enfants vont l'aider.
Oui, parce que l'handicap est plus visible que par rapport à un 10 ou un TDAH. Oui. Mais justement, oui. Moi, beaucoup de parents qui font partie d'associations 10 me disent je ne comprends pas pourquoi que les professeurs n'osent pas parler de l'handicap d'un enfant. Parce que justement... Oui, allez-y.
Il y a la crainte de la stigmatisation.
Voilà, c'est ça.
C'est un savoir-faire. C'est peut-être avec beaucoup d'expérience, on commence à aborder, mais c'est tellement au cas par cas, ça dépend tellement du groupe classe que l'on a en face, que oui, c'est parfois compliqué de le faire.
Alors ça doit être d'autant plus compliqué lorsqu'il y a un enfant TDAH, donc qui a d'autres troubles et qui, en fin de compte, peut faire une crise en classe parce qu'il est énervé. Et dans ce cas-là, ça peut aussi interpeller les autres enfants. Donc là, je pense qu'il faut communiquer réellement sur l'handicap d'un enfant qui est TDAH, par exemple.
Alors, ça, c'est de toute façon toujours à la discrétion hein, de la famille, mais j'ai envie de dire que la réaction de la classe va aussi dépendre de la réaction de l'enseignant.
Oui.
Les enfants vont se calquer sur la réaction de l'enseignant.
Voilà.
Si l'enseignant montre des signes d'agacement vis-à-vis de l'enfant, les enfants de la classe vont être agacés. Donc, tout va consister à se former soi-même pour pouvoir accepter... dans sa pratique de classe, des ralentissements dans le programme qu'on a prévu, enfin voilà.
Donc, ça, on en parlera.
Vraiment, oui. L'enseignant est vraiment le pilier de la réaction des autres enfants.
Voilà. Ça, on reviendra sur la formation justement des professeurs au niveau de l'handicap. Mais effectivement, moi, J'ai été plusieurs fois en ESS, donc ce sont des réunions entre parents et professeurs. Lorsqu'il s'agit d'un enfant TDAH, on voit bien l'énervement des professeurs parce que, bon, effectivement, s'ils ne sont pas formés, ça devient très compliqué pour gérer la classe. Surtout, souvent, il y a 25, 26 élèves avec d'autres difficultés. Et donc, on a tendance, effectivement, parfois à dire, bon, ben, l'enfant TDAH, eh bien, on va l'enlever un après-midi ou deux après-midi par semaine. Et là, je pense que là, c'est vraiment, pour le coup, stigmatiser l'enfant.
Ah oui, ben c'est pas, déjà, ce n'est pas respecter la loi, puisque la loi dit qu'on doit inclure les enfants et donner à tous l'accessibilité au savoir. Donc ça, c'est une phrase qu'on ne doit pas simplement lire, mais faire sienne, quoi, réfléchir. Et comment, moi, j'engage mes stagiaires à réfléchir. Comment, moi, aujourd'hui, dans ce que je suis en tant que néo-professeur, stagiaire, quelle est ma capacité humaine à pouvoir accepter, parce qu'une fois qu'on a réfléchi à soi, on est plus à même déjà de le gérer en classe. Et c'est très important, je pense, effectivement.
Alors, j'ai relevé une petite phrase du docteur Olivier Revol, hein, qui est spécialiste justement dans tout ce qui est handicap. Les enfants dits, ce sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir le montrer ni le prouver. Leur capacité est différente, leur volonté d'apprendre est identique. Je pense que voilà, tout est bien résumé.
Oui, tout est bien résumé. Et donc, pour l'enseignant, il va s'agir d'intégrer ça et de se dire, ben, il a peut-être des capacités différentes en lecture, en écriture, mais il a d'autres capacités, cet enfant 10. Et donc, je vais mettre en place des activités dans lesquelles il peut montrer que lui aussi, il a des compétences.
On le voit un petit peu dans le texte qu'a lu tout au départ Jackie d'Orlando Bloom, qui disait, oui, effectivement, ils sont créatifs. Donc, il faut peut-être amener plus de créativité. Mais ça, c'est général, c'est pour tous les enfants.
Alors, la créativité, de toute façon, oui, ça sied à tous les enfants. Mais c'est vrai que dans ces domaines-là, les enfants qui ont des dyslexies, par exemple, sont très, très créatifs. Ils manipulent très bien tout ce qui est de la manipulation. Ils manipulent très bien. Parfois, c'est la vision dans l'espace qui est bonne. Donc, il faut réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit l'observation à la base est très, très importante. C'est observer l'enfant, vers quel jeu il va aller, lui poser des questions, essayer de mieux le connaître à sa maison, quel jeu il pratique, quel sport il pratique, quelle activité il pratique, avec quel jeu il aime jouer. Et là, on va bien voir émerger des champs de possibles. Et du coup, après, organiser dans sa classe des activités qui vont mettre en avant ces domaines où l'enfant, lui, il excelle et du coup, lui donner un autre regard sur lui-même du système scolaire.
Donc, ça doit être un peu plus compliqué au niveau activité gestuelle pour les enfants dyspraxiques.
Les enfants dyspraxiques qui vont avoir d'autres compétences.
Voilà.
Voilà, donc c'est parce qu'on ne peut pas dire tous les dyspraxiques sont bons à ça, tous les dyspraxiques sont créatifs. C'est pas, ça ne marche pas comme ça. C'est un trouble qui atteint la personne et cette personne, en tant qu'humain, va développer certaines qualités. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un travail très fin d'observation, de contact, de maïeutique, on dit, hein, de travail avec l'enfant pour pouvoir faire émerger ces domaines qui vont être des appuis. Et d'ailleurs, quand on fait des ESS, comme vous disiez tout à l'heure, des équipes de suivi de scolarité, en général, quand on fait une ESS, c'est parce qu'on va faire une demande d'aide particulière et on va remplir un document qui s'appelle un GEVASCO. Mmh. Et dans ce document, il est bien demandé quels sont les points d'appui.
Ça en reviendra un peu plus tard, effectivement, ouais. Toutes les aides qu'on peut mettre en place. Moi, j'aurais voulu que tu nous parles de ce fameux, cette création de site d'aide pour les professeurs. C'est donc Être Prof. C'est une plateforme mise en place pour aider les professeurs dans leur métier au quotidien. Globalement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut trouver, quels sont les outils proposés et quelles sont les aides les plus recherchées? Moi, j'ai été faire un tour sur cette plateforme. C'est fort intéressant.
Alors, Être Prof, c'est un des dispositifs de l'association SYNLAB, SYN-LAB, qui est une association d'intérêt général, qui est indépendante, apolitique et non confessionnelle. Elle a été créée en 2012 et qui part d'une idée simple mais très forte, comme quoi les enseignants sont la meilleure chance de réussite pour les jeunes enfants défavorisés. Donc, sa mission à cette association, c'est de soutenir les enseignants, les chefs d'établissement et de faciliter la réussite des 12 millions d'élèves en France. à travers différents dispositifs. Être prof est l'un d'entre eux. Alors, il y a une plateforme, êtreprof.fr, sur laquelle, si on se connecte à cette plateforme, on va avoir plusieurs possibilités. On va avoir des différents onglets qui vont permettre soit de s'inscrire à des parcours, soit de suivre des lives. Ça dure à peu près une heure où Nathalie Dreyfus va interviewer des personnes sur des sujets particuliers. On va pouvoir trouver des fiches outils, on va pouvoir trouver des guides. Mais il y a aussi au cœur d'être prof, la possibilité d'avoir un mentor qui va faire du tutorat, donc one-on-one. Si un jeune professeur a besoin en particulier d'être accompagné tout au long d'une année ou sur un temps donné, on va lui affecter un mentor qui va pouvoir le suivre et l'accompagner, donc en distanciel. Et on va aussi avoir des programmes, comme cette année, Être Prof a créé le programme Être Néo-Prof pour tous les jeunes professeurs nouvellement diplômés. Et donc, on mène des ateliers le mercredi avec des thématiques qui sont des thématiques qui ne sont pas abordées en INSPE, en centre de formation, mais qui sont plutôt des thématiques justement qui sont sur tout ce qu'il y a autour des disciplines pures, on va dire. Donc, on ne va pas faire des ateliers sur l'enseignement du français, des maths. Mm-hmm. On va faire plutôt des ateliers sur la gestion de classe, comment faire progresser les élèves, justement comment gérer les enfants particuliers, etc.
Plus sur le relationnel, en fin de compte.
Sur tout ce qui va faire que le métier de prof va fonctionner. C'est tout ce qui est les compétences psychosociales, les besoins d'organisation, comment on fait un emploi du temps, comment on fait une réunion de parents, comment est-ce qu'on reçoit des parents, comment est-ce qu'on reçoit des parents allophones.
Et par contre, ce site est dédié qu'aux professeurs ou alors faut-il s'abonner? Ça marche comment exactement?
Non, alors, le site, il est accessible à tout le monde. Les personnes qui veulent s'intéresser peuvent y aller. Les temps de formation sont des temps destinés aux professeurs.
Oui.
Donc particulièrement, il y a sur être néo-prof, c'est aux professeurs nouvellement diplômés et aux vacataires. Mais tout le monde peut accéder aux articles. Il faut s'inscrire sur le site. Alors, je précise que tout cela est gratuit. Donc, pour les jeunes professeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et nous, on fait un travail en filigrane, un travail de dentelle avec chacun. Récemment, il y avait une jeune professeure de Olioul qui avait besoin d'aide sur un accompagnement pour des d'écriture de ses progressions, ses programmations. Et donc, on s'est mis à deux ou trois mentors pour l'aider.
Et qu'en pense l'éducation nationale?
Oui, je crois que c'est surtout ça, le problème.
Je ne prétends pas être l'éducation nationale. Les personnes qui ont créé l'association sont en lien direct avec l'éducation nationale, sont souvent des personnes de l'éducation nationale. Et on accompagne, c'est un outil au même titre qu'un autre. Il existe aussi Canopée.
Oui, Canopée, oui.
Il y a d'autres outils. Et en fait, nous, on s'attache à compléter ces outils, justement. Je pense que l'éducation nationale pense que du bien de nous, puisqu'ils sont derrière ce site aussi. On a plusieurs académies qui sont des sponsors de cette démarche.
Non, d'accord. Parce que je pense que ça devrait être une petite formation qui serait, presque obligatoire pour chaque professeur.
Ça devrait être initialement dans la formation des professeurs.
Oui.
Je suis sûre que les professeurs ne connaissent pas être prof.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de professeurs qui connaissent être prof. Être prof, alors chez les professeurs, c'est une corporation, il y a beaucoup, beaucoup de communication quand même entre nous, beaucoup de bouche à l'oreille, mais être prof est présent sur les réseaux sociaux, être prof est présent dans les différentes publications qu'on peut recevoir de nos hiérarchies. Donc, peut-être que tous les professeurs ne le connaissent pas, mais bien évidemment. Mais bon, voilà, ça, je pense que ça fonctionne déjà depuis donc 2012, je vous ai dit. Et voilà, ça fonctionne bien. Obligatoire, alors là, on touche à quelque chose de très particulier, c'est les temps de formation des enseignants.
Oui.
Parce que... il y a des formations qui sont proposées par les académies. Il y a le plan académique de formation dans chaque académie. Mais c'est vrai que les enseignants sont beaucoup sollicités et que se former, ben, ça prend du temps.
Ah non, non, mais c'est sûr.
C'est tout à fait ça. Alors, après, bon, moi, j'ai... Être prof, c'est parce que, tout simplement, c'est en allant sur le Facebook de 70, il y avait un petit résumé sur être prof. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. C'est pour ça que je t'ai contactée, Nathalie. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des tutos, comme tu le disais, pour établir des liens de confiance avec les familles, hein, tout au long du parcours de l'enfant, donc de la maternelle jusqu'aux études supérieures. On dit toujours, nous, que c'est une priorité, hein, afin d'aboutir à la mise en place des aides pour le bien de l'enfant et de sa réussite scolaire. Est-ce compliqué d'avoir une relation de confiance avec les parents quand il leur s'agit de leur dire et de leur expliquer que, leurs enfants ont un besoin spécifique pour les aider dans leur scolarité ? Est-ce que c'est compliqué d'avoir ces entretiens avec la famille ? Parce que souvent, la famille, n'écoute pas ou pense que le professeur se trompe.
Non, ça peut l'être. Il faut quand même, quand on est formé pour parler justement de ces besoins éducatifs particuliers, on apprend qu'il y a toujours un délai qui correspond à un déni qui est normal. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, d'abord, il faut savoir le dire. Hein, on va pas avoir une maman comme ça, puis lui dire « votre fils, il est autiste hein ». Ça me paraît évident, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Ça se fait d'abord dans un cadre précis. On ne pose pas de diagnostic. Nous, on n'est pas des spécialistes. On ne pose pas de diagnostic. On s'interdit de le faire, même si avec les années de pratique, on arrive facilement... c'est comme un mécanicien qui écoute le moteur d'une voiture, hein, on arrive facilement quand même à repérer des choses, mais ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas notre travail de le faire. Donc on va d'abord diriger, on va demander peut-être que les enfants soient vus par un orthophoniste, par un psychomotricien. Donc c'est important pour les enseignants de connaître justement tout ce faisceau de spécialistes qui vont encadrer l'enfant. Et à force que les spécialistes renvoient chacun à la famille quelque chose,
oui,
la famille
doit
être prête à entendre certaines choses.
D'accord.
La phase de déni est normale. Je pense qu'il faut là faire un preuve d'un petit peu d'empathie et se mettre à la place
des parents
et se dire comment moi j'aimerais qu'on me dise la chose. Voilà, comment j'aimerais. Est-ce que je suis prêt, moi, parent, à recevoir cette information sur mon enfant ? Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence
comme impact
pour la scolarité ? Parce que on peut avoir des phases de déni où, par exemple, il y a des parents qui vont nous dire non, mais pas du tout, vous vous trompez. Et puis après tout, l'erreur est humaine. Un enseignant peut aussi se tromper, hein. C'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut croiser les regards. Dans une équipe, c'est bien de travailler en équipe parce que dans une équipe pédagogique, on est plusieurs enseignants. C'est bien de croiser les regards sur un enfant. Pour être sûr de ne pas se tromper. Ensuite, eh bien, une fois que les parents ont peut-être accepté que l'enfant, mettons, soit dyslexique, ils n'ont peut-être pas envie que l'enfant il ait cette étiquette sur la tête. Hein. Voilà, c'est le dyslexique de la classe. C'est toujours très lourd à porter. Surtout qu'il va y avoir en fait des préconisations d'adaptation, de différenciation à faire, qui ne sont pas toujours faciles à faire pour les enseignants, faciles à mettre en place. C'est pas que les enseignants n'ont pas la volonté, certains, certainement, comme partout, n'ont pas la volonté d'eux, mais la plupart ont bien la volonté, sauf que quand vous êtes enseignant, vous avez une classe de 33 élèves, en lycée, parfois, ça monte à 39.
Oui.
Un prof de maths qui a un programme à tenir parce qu'il a le bac à la fin de l'année, eh bien, il n'a pas forcément le temps. En plus, il change de salle de classe toutes les heures, de se trimballer la mallette avec tous les outils de manipulation. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, effectivement, sur comment on aide les enseignants à mettre en place les préconisations. Voilà.
OK.
C'est pas facile.
Je me doute, oui, que ce ne doit pas être facile. Il y a Jackie qui a quelques petites statistiques. Il va nous en parler avant de passer à l'intermède musical.
Oui, le monde des 10, il est un peu flou, un peu compliqué, parce qu'on a vraiment très peu d'études et de statistiques fiables dessus. Donc, 6 apparemment. Comment ?
En France, on a très peu en France.
Oui, oui, en France. Oui, en France.
Le monde anglo-saxon est quand même bien en avance là-dessus.
Alors, notamment, j'ai quelques infos, là, quelques études qui ont été mises sur d'autres pays, notamment qui sont. C'est vrai que chacun a un peu sa façon de faire et ses expériences de ce côté-là. En France, il y a entre 6 à 8% et même jusqu'à 10% qui seraient concernés par les 10. Donc, selon la nature des troubles qu'on a inclus dans l'étude, on peut varier de 1 à 10%. Après, selon les troubles, hein, il y a les dysphasies qui sont de 1 à 7, la dyslexie de 6 à 7,5, dyspraxie 6%, dyscalculie 4%, et les TDAH de 3,5 à 5,6. Donc, on serait entre 21 et 30% qui seraient de cet ordre. Ça serait quand même quelque chose d'important quand même en France.
Donc, par exemple, dans les dyslexies, il y a les dyslexies neurologiques, et puis il y a les dyslexies visio-spatiales.
Oui.
Il y a les dyslexies de posture aussi, quand l'enfant se tient mal. Donc là, pour le coup, si c'est une dyslexie de posture, en corrigeant la posture de l'enfant, il n'y a plus de dyslexie. C'est pas une dyslexie neurologique.
Voilà, il y a quand même des choses. Alors, notamment, il y a une étude qui a été réalisée par une fondation qui a été faite au niveau de trois pays surtout. Enfin, trois pays. Les États-Unis, la Norvège et notamment, enfin, surtout les pays nordiques, comme toujours. La Norvège, la Finlande. Alors, la Finlande, on voit que surtout la Norvège, enfin, aussi les Pays-Bas. Mais on voit aussi sur les pays nordiques que la prise en compte des enfants est faite très tôt, est faite au niveau de la maternelle. Il y a un dépistage régulier, systématique au niveau de la maternelle sur tout l'aspect du développement, du langage. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, il y a la Hollande, les Pays-Bas, qui eux, les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué, comme toujours. Parce que c'est selon les États, c'est selon...
Tout
change d'un État à l'autre. Par contre, les Pays-Bas, eux, font quelque chose. Alors, eux, il n'y a pas de structure spécifique, mais il y a des structures spécialisées ambulatoires. Donc, c'est souvent des spécialistes qui prennent en charge individuellement les enfants qui ont des troubles. Donc, ça, c'est... Mais on voit, surtout dans les pays nordiques, que les enfants sont vraiment pris beaucoup plus tôt.
Au niveau de la lecture...
Je défends un petit peu la Méditerranée. En Italie, dès qu'un enfant est repéré avec un trouble d'apprentissage, on met un deuxième enseignant dans la classe.
Ça, c'est génial.
Voilà. Donc, ils ne sont pas nordiques, eux, mais ils ont compris qu'il fallait quand même apporter une béquille et à l'enfant et à l'enseignant.
Ça, on y reviendra après, parce qu'on parlera de nous, on met des AESH, mais on a du mal à en obtenir. Et donc,
c'est surtout au niveau des spécialistes qu'il y a un problème.
Oui, puis là, on va reparler aussi des spécialistes par la suite.
En France, on dit qu'on ne peut pas diagnostiquer une dyslexie avant l'âge de 5-6 ans, quand la lecture commence à se mettre en place.
Et encore, nous, on voit passer au niveau des associations 10. Souvent, l'enfant est pris en charge. On ne s'inquiète pas en CP, on s'inquiète en CE1. Et tant de faire les papiers, etc., bon, on va revenir là-dessus. Hein. Mais c'est vrai, l'enfant va être pris en charge en CE2. C'est beaucoup trop tard.
Avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale.
La bouche puis le nez, c'est vraiment à pleurer. Exulisque. Et si j'ai la manie de tout intercaler, histoire de ne pas m'ennuyer, on m'appelle Sally, Sally, Sally Rongier.
Pénoricalité, curriculum vitae.
Je suis un peu dyslexique et beaucoup lexilisque.
Notre thème du jour, 10 et les moyens mis en place. Pour cela, nous recevons au téléphone Nathalie Manguini, professeure à Nice, qui a rejoint l'équipe Être Prof. Avant de reprendre, Sylvie va nous faire écouter quelque chose.
Voilà, parce que Luc, le technicien, se moque toujours de moi sur le choix de mes chansons. C'est vrai que ce n'était pas évident de trouver une chanson dyslexique. Alors, c'est Buzy, qui est autrice, compositrice et interprète, chanteuse pop-rock. Personne ne se souvient peut-être d'elle, mais à mon avis, cette chanson, vous allez certainement vous en rappeler.
Si on stoppait le monde rien que pour une seconde, si on baissait le ciel là où est l'essentiel, si on stoppait le monde rien que pour une seconde, si on baissait le ciel là où est l'essentiel.
Adrienne.
Oh, Adrienne, Adrienne.
Ah oui, voilà.
Oh, Adrienne, Adrienne.
Tu t'en souviens?
Oh,
oh, excusez-nous. Oui, on avait attrapé un petit fou rire. Donc, on se souvient de cette chanson, hein, Adriane, sauf Gérard qui ne s'en souvient pas. Voilà, donc c'est les années 80, c'est notre époque à moi et Jackie, donc on voulait absolument faire un petit buzz là-dessus. Alors, maintenant, Nathalie, tu te souviens de Buzzy ou pas du tout? Tu as connu ou pas?
Non, oui, je l'ai connu. J'ai connu Adriana et quand elle a chanté Dyslexique, j'ai reconnu sa voix.
Ah, bah parfait. Alors, on va passer maintenant au dispositif en place actuellement. Alors, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances a permis de créer dans chaque département la MDPH, la maison départementale pour les personnes ayant un handicap, parce que c'est toujours marqué handicapé, mais on dit ayant un handicap, ayant pour mission d'informer, d'accompagner les familles vers un plan personnalisé de compensation du handicap. Lorsqu'un enfant est détecté 10, beaucoup de parents expriment leur anxiété, c'est ce qu'on disait, face au bilan à effectuer pour remplir un dossier GEVASCO, la lenteur administrative et surtout la longue liste d'attente chez les orthophonistes et autres spécialistes. Alors, pour parer à cette lenteur, quelles sont les aides à mettre en place par l'équipe éducative pour subvenir aux besoins de l'enfant? Nathalie.
Alors, comme on a dit, hein, donc il y a toute une panoplie. D'abord, on n'est pas obligé de faire une demande GEVASCO parce que tous les 10 n'ont pas forcément un besoin lourd d'adaptation. Parfois, ils compensent parce qu'on peut le 10, ça peut être en comorbidité avec autre chose. Mm-hmm. Donc souvent, on a des enfants à haut potentiel qui sont 10. Leur haut potentiel permet la compensation, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas forcément besoin tout de suite d'avoir une AESH ou un ordinateur ou etc. Plus tard dans leur scolarité certainement. Du coup, il y a ce qu'on appelle le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé, qu'un enseignant peut rédiger, dans lequel il va noter toutes les adaptations qu'il fait en classe pour permettre à l'élève justement de compenser son handicap. Donc si on va laisser un peu plus de temps à un enfant parce qu'on a remarqué que il est un peu plus lent dans l'écriture, on le marque, qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. On va faire des bilans, on va noter dans ce PAP les préconisations des orthophonistes, des psychomotriciens, etc. Donc c'est un document qui accompagne l'enfant. Le PAP à lui seul peut donner droit à du temps supplémentaire pour les examens.
D'accord. Alors, le PAP va suivre donc l'enfant, si j'ai bien compris, tout le long de sa scolarité.
Oui, mais alors, à chaque cycle.
D'accord. Donc, ça peut très bien se passer avec un professeur et l'année d'après, au changement de professeur, là, le PAP ne sera peut-être pas suivi par le professeur, soit parce qu'il manque de formation, soit parce qu'il n'a pas le temps. Là, c'est toujours ce qu'on dit, c'est vraiment une relation humaine. Et souvent, les parents, justement, préfèrent avoir un PPS. Hein, donc, c'est plus personnalisé, en fin de compte. Et donc, ça, c'est effectué avec des bilans. C'est un dossier MDPH qui doit être complet avec les bilans. Et donc là, on va pouvoir mettre une aide matérielle ou une aide humaine, l'AESH. Et actuellement, beaucoup de parents déplorent le manque dans les écoles d'AESH, souvent pas formés aux méthodes pour aider les enfants. Et dans ce cas-là, les professeurs sont seuls à gérer les besoins des enfants 10. Comment adapter donc les cours ou anticiper le programme dans ce cas-là? Je pense que ça doit être très compliqué.
Alors, pour faire un PPS, projet personnalisé de scolarisation, effectivement, il faut avoir fait un GEVASCO et déposer une demande à la MDPH, c'est-à-dire il faut avoir dépassé la phase du déni et accepter de dire que mon enfant est atteint d'un handicap.
Bah, c'est-à-dire que les parents, souvent, plutôt que le PAP, ils préfèrent justement avoir un PPS. Moi, c'est ce que me disent les associations 10, parce qu'ils ont l'impression que, parce qu'il y a un PPS, les professeurs vont plus suivre les directives qu'il y a de noter ce PPS.
Non, pas plus, ni moins. Il faut quand même que les parents entendent que le PAP peut être rédigé à la demande de l'enseignant ou à la demande des parents.
Donc plus rapide.
C'est rapide, ça met déjà une obligation de prendre en compte la différence de l'enfant. Et puisque le PAP peut donner lieu pour les examens à des horaires supplémentaires, etc., c'est un document tout à fait sérieux que les enseignants doivent respecter. Après, pour le PPS, c'est quand les parents pensent et les spécialistes pensent que l'enfant a besoin d'une aide humaine ou d'une aide ordinateur, etc., plus conséquente. Alors, les AESH sont partie des aides humaines. Et les AESH, pour l'instant, on n'en a pas. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Une AESH, c'est pas payé plus de 800 euros par mois.
Oui, puis c'est très précaire comme métier.
Donc, c'est un emploi très précaire qui est très peu reconnu financièrement, alors qui est énormément reconnu par les enseignants, certes, parce que ce sont des aides qui ont énormément de valeur pour nous, parce c'est comme une classe maternelle. Normalement, la SEM est obligatoire en petite section, mais toutes les maîtresses de moyenne et de grande section sont très heureuses d'avoir des aides maternelles aussi.
Oui.
Ce sont des personnes qui sont des collaborateurs avec l'enseignant pour aider les enfants à accéder au savoir. Donc, c'est très important. Mais effectivement, c'est compliqué. Parfois, la MDPH notifie une AESH pour un enfant. Et puis, on attend l'AESH un an. Parfois, sur ma région, là, on est à plus de 8 mois de retard pour le traitement des dossiers MDPH.
Donc, justement, en parlant de la MDPH, la MDPH, c'est pas quelque chose de national. En fin de compte, la MDPH fonctionne par département. Donc, il y a des départements qui sont mieux lotis que d'autres. Voilà, merci Jackie, chercher le mot. Voilà. Et ce qui n'est pas normal, je veux dire, l'handicap devrait être pris.
Je ne suis pas au cœur de la MDPH et de son fonctionnement et je ne peux pas me permettre de décrire la MDPH. Ce que je veux dire, c'est que on peut tout à la fois faire un PAP pour son enfant pour déjà mettre en place des adaptations. Et cela n'empêche pas de faire le dossier, de commencer à faire un dossier pour un PPS.
Ah, nous, c'est le constat qu'on fait sur la MDPH. C'est un petit peu dommage, effectivement. Moi, je trouve que c'est l'handicap. On devrait le prendre à l'échelon national. Jackie a des choses à rajouter sur la MDPH.
Est-ce que du côté de MDPH, mais aussi du côté des parents, est-ce que les parents sont un peu perdus, s'y retrouvent plus concernant tous ces codes PPS, PAI, PPR, enfin, toutes ces choses-là?
Alors, le PAI, c'est un projet d'accueil individualisé qui, normalement, est fait quand il y a une maladie et qui nécessite une prise médicamenteuse. Donc le PAI est visé par le médecin scolaire parce que par exemple pour l'asthme, pour les allergies,
oui, la tolérance.
Ça c'est les PAI.
Oui, mais nous, on le voyait quand on était, quand on a fait pas mal de journées avec les associations 10. Donc, on avait un stand. Ce que j'observais, c'était vraiment les parents qui étaient complètement perdus par rapport à ce système et ces codes.
C'est du jargon et je pense qu'il n'est pas inutile, et ce n'est pas du temps perdu, que de prendre le temps d'expliquer aux parents toutes ces formules. Il y a aussi en amont du PAP, le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative que l'enseignant rédige, qui vise une compétence particulière et qui va permettre d'accompagner l'enfant qui va dire dans la classe quels sont les attendus. Ce PPRE, il dure quelques semaines et à l'issue de ça, on refait un point avec les parents. S'il y a une amélioration, bien. S'il n'y a pas d'amélioration, on peut refaire un deuxième PPRE. Mais au bout d'un moment, quand les PPRE ne fonctionnent plus, on passe au PAP. Et puis on passe après au PPS.
Alors je crois que tout ce système, toutes ces choses sont très bien. Mais quand là, c'est vrai que dans les choses que j'ai regardées, là, dans les différentes remarques, malheureusement, c'est suivant aussi ces choses-là, suivant les disparités entre les territoires, les écoles et les enfants. Et quand on est dans des territoires sensibles, où nous on est avec l'association, il y a trop de parents, il y a beaucoup de parents qui abandonnent.
Je pense que c'est pas inutile que ce soit je sais pas comment on pourrait l'envisager, que ce soit les écoles, lors d'une réunion de parents. Ça peut être aussi le travail de l'association des parents d'élèves, faire une journée d'information, justement, avec, il existe plein d'infographies qui expliquent les différents sigles et de peut-être faire une journée d'information. Pour que les parents, justement, puissent se rencontrer des spécialistes et qu'on leur explique bien qu'est-ce qui correspond à quoi. Et je pense que ça, c'est pas du temps perdu.
Alors, nous,
plus le parent voit clair dans la forêt, mieux il va guider son enfant.
Alors, nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait venir des associations 10 au sein des écoles, justement pour qu'il y ait un échange parents, professeurs et ces associations. Et je trouvais que c'était très, très bien. Alors, c'est vrai que, juste une petite question, de nos jours, avec ces journées nationales des 10 ou départementales, on se rend compte quand même, nous, on a eu la chance d'y aller plusieurs fois, qu'il y a quand même une marchandisation sur les nouveaux produits pour aider les 10. Ça part des lunettes, aux lampes, aux méthodes syllabiques nouvelles, les stylos scanners, bon, qui fonctionnent pour certains. Ça va être compliqué pour toi de nous dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une marchandisation sur ces enfants 10? Quand on voit une lampe qui coûte plus de 500 euros, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Parce que suppose déjà qu'il y a des logiciels dans les écoles qui peuvent aider énormément les élèves.
Il y a énormément de choses. Une lampe spéciale, ça a nécessité de la recherche et je pense quelque part qu'il faut accepter aussi de rétribuer la recherche comme on rétribue son plombier. Mais effectivement, ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Et on est dans l'individu, on est dans l'humain, donc on n'est pas dans les machines. Donc ce n'est pas parce que je suis dite que cette lampe va fonctionner et va me rendre pas dyslexique. Du coup, je pense que ce qui est à faire, c'est de prendre un peu de distance, de ne pas se jeter à corps perdu dans l'achat de tas d'outils en pensant que ces outils sont des baguettes magiques. Il n'y a pas de baguettes magiques. Il y a des outils qui vont permettre à des individus, chacun singulier, de compenser ces difficultés. Et c'est à l'enfant aussi qui va... Par exemple, il y a des outils qu'on peut utiliser en classe, les time timers, qui permettent de visualiser le temps. Le time timer, ça stresse certains enfants. Donc, il n'est pas adapté pour tout le monde. Le coussin sur lequel on s'assied quand on est TDAH, ça nous permet un certain mouvement, etc. Certains enfants n'en veulent pas parce que ça les dérange, ça les pique, je ne sais quoi. Donc, il faut vraiment que ce soit adapté à chaque enfant et que l'enfant valide cet outil parce que lui, ça l'aide.
Oui, je pense que dans ce cas-là, les parents, il faut se rapprocher ou des associations 10 ou des professeurs qui peuvent effectivement indiquer si tel ou tel objet peut être bénéfique pour l'enfant. Il y a une chose...
C'est-à-dire, moi, j'ai envie de dire d'abord, il faut se rapprocher de son enfant.
Oui, c'est vrai.
C'est un individu et lui, il est à même de voir si ça lui convient. Quand on vous met des lunettes, c'est vous qui dites si votre vision, elle est meilleure ou pas meilleure. C'est pas quelqu'un d'autre qui va dire, oui, c'est ces lunettes que tu dois porter. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de la personne atteinte de troubles, même petits, ils vont réagir. Après, ben, effectivement, on peut s'intéresser. Et oui, il y a certainement une marchandisation d'objets, puisque ben, voilà, c'est un filon quand même, hein, pour le dire. C'est un créneau où on peut créer des choses. Mais souvent, en tout cas c'est mon expérience, ce sont des outils qui ont été créés par des anciens 10, enfin des actuels 10, mais qui étaient des anciens élèves qui ont eu des difficultés, qui ont essayé de compenser. Les claviers colorés, ça peut aider. Voilà, et c'est tellement personnel ça que c'est compliqué de pouvoir dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Je pense que en se rapprochant déjà de son enfant, en prenant des avis autour de soi, d'autres parents, d'autres enfants, en allant voir des associations, en discutant avec l'enseignant, parce que ben, les enseignants, on les connaît aussi, les enfants, on les a beaucoup plus d'heures réveillées que leurs parents finalement dans la journée, et on les voit fonctionner, donc on voit si... Parce que peut-être l'enfant, à la maison, il peut utiliser un outil, mais dans la classe, il va être gêné de l'utiliser. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, je pense qu'effectivement, faut pour chaque cas particulier, c'est comme les chaussures orthopédiques, on n'a pas tous les mêmes.
Tout à fait. Je voulais revenir sur les dispositifs en place. On a oublié de parler du rôle de l'enseignant référent, donc qui est au sein de l'éducation nationale, hein, et c'est l'interlocuteur privilégié des parents des élèves en situation de handicap. Il intervient quand cet enseignant référent ?
Lors des ESS, lors des équipes de suivi de scolarité. Donc mais je pense qu'il est aussi, on peut le contacter, hein, il peut être contacté par des familles, mais on peut le contacter, moi je sais qu'en tant que professeur référent dans mon établissement pour tout ce qui est justement les enfants à BEP, on dit, encore un sigle, besoin éducatif particulier, je peux demander voilà, à l'enseignant référent d'avoir des échanges, on peut échanger, avoir des conseils. Donc, il peut intervenir dans les écoles pour faire des petites formations. Ça va dépendre des enseignants référents. Et là encore, c'est comme les AESH, ils ont des secteurs, selon les villes où ils interviennent, ils ont parfois des secteurs immenses à couvrir, quoi. Et des emplois du temps qui n'en finissent pas. Là aussi, il faut se rendre compte qu'ils sont humains et qu'ils ne peuvent pas mettre plus de 24 heures dans leur journée.
Donc, en fin de compte, on manque d'enseignants référents, on manque d'infirmières, de médecins scolaires, non ?
Des médecins scolaires, il n'y en a plus. Hein. Des infirmières scolaires, on les voit pratiquement plus.
Il y a des psychologues aussi scolaires ?
Oui, et pas tout le temps là, parce qu'ils sont à cheval sur plusieurs établissements. Donc, c'est pas évident. On a l'impression que ça coule de source. Alors, effectivement, dans les pays anglo-saxons, j'ai envie de vous dire, il y a des départements... comme il y a le département de sciences, le département de langue, il y a le département des enfants à besoins éducatifs particuliers, au sein duquel on a des enseignants référents, des orthophonistes, des psychologues, des psychomotriciens. Donc chaque école a son staff.
D'accord.
Pour gérer ce qu'on appelle en anglais special education need, parce que tout ça vient bien de l'Angleterre. Et du coup, voilà. En Italie, je vous ai dit, il y a déjà un doublon d'enseignants, donc ça permet aussi une aide et que la personne observe et puis rédige peut-être des fiches d'observation, rentre en contact avec les familles, ça aide beaucoup. C'est le temps et là, franchement, c'est compliqué en ce moment en particulier puisqu'on est en manque d'enseignants.
Je voulais juste lui poser une question, mais complètement différente. Il existe des classes SECPA et ULIS. Donc je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas eu quelque chose qui aurait été loupé au départ.
Alors, il existe des classes spécialisées, sauf que la loi sur l'école inclusive vise quelque part à ce que ces enfants soient maintenant inclus dans une classe ordinaire.
Oui,
L'idée, c'est de ne pas passer toute sa journée dans la classe ULIS.
Tout à fait. Oui, ça a changé à ce niveau-là. On le voit en primaire, effectivement. Oui, nous, on suit une classe ULIS et c'est ce qui se passe, effectivement. Alors, pour eux, la difficulté de ces enfants qui sont en classe ULIS, quand ils retournent, effectivement, dans la classe dite ordinaire, je n'aime pas ce mot, mais c'est comme ça, eh bien, des fois, ils sont stigmatisés par les autres élèves de cette classe ordinaire parce qu'ils ne sont pas tout le temps là. Donc,
oui, et puis, puis aussi, il faut prendre en compte si, par exemple, l'enfant, il est dans la classe ULIS parce qu'il est atteint de troubles autistiques, tout changement,
oui.
Tout changement, même le TDAH, tout changement va l'impacter. Donc, il peut pas, finalement, on pense l'aider, mais quelque part, je me pose la question, est-ce que on lui colle pas un handicap supplémentaire en le faisant changer comme ça de lieu? Un TDAH, tout changement va le paniquer.
Ah, ça le perturbe. Alors,
ce fameux changement va devenir ritualisé au bout d'un moment, mais c'est quelque chose en plus qu'il a à gérer au début. Oui. Et la question sur les classes SECPA et les classes ULIS, c'était est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose au départ?
Oui.
Par rapport à quoi rater?
Par rapport au comportement jeune de l'enfant, quoi. Parce qu'on ne met pas à maternelle, classe ULIS ou SECPA, ça n'existe pas. Donc c'est dans l'évolution de l'enfant, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose?
Oui, je pense qu'il veut dire, Gérard, est-ce qu'on a loupé sa prise en charge? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une prise en charge beaucoup plus tôt?
Beaucoup plus
Parce
tôt,
qu'il y a
oui.
certains élèves, en fin de compte, on le voit bien, ils font classe ordinaire, et puis arrivés en CM2, on leur dit, il faut aller dans une classe ULIS ou dans une classe SECPA. Alors, peut-être parce qu'ils ont des grosses difficultés scolaires, mais il y en a qui sont détectés très tardivement, peut-être parce que les parents, justement, ne veulent pas mettre de choses en place. Et donc, dans ce cas-là, l'enfant se retrouve un petit peu délaissé.
Je ne sais pas si c'est les parents qui ne veulent pas mettre des choses en place. Je pense qu'on se dit toujours en France, en tout cas, qu'un enfant, le cerveau humain, il se développe. On dit qu'il est fini d'être développé à 25 ans. Donc c'est toujours compliqué de poser un diagnostic avant, de se dire, là, voyez. Donc on est dans cet esprit en France, de dire, l'enfant, il a bien le temps de se développer. Et seulement, on voit quand même, dès qu'ils sont petits, effectivement, il y a des choses qui sont prégnantes. Un enfant qui a un TDAH, il faut l'accompagner. On ne peut pas le laisser comme ça. Et du coup, il va devenir l'élève perturbateur, alors qu'en fait, il demande qu'une chose, c'est d'apprendre.
Voilà. Là, on va parler de l'école inclusive, mais il y a quelque chose tout à l'heure que tu as dit, Nathalie, c'est que dans les pays anglo-saxons, effectivement, dans leur école inclusive, il y a déjà des orthophonistes, des spécialistes qui vont pouvoir gérer l'enfant beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est à titre gracieux. Ce qui se passe aussi, nous, en France, c'est que tous ces spécialistes orthophonistes, ergothérapeutes, c'est comme ça qu'on dit, si c'est ça, thérapeute. Voilà, tout ça, c'est faut que ce soit pris en charge par les parents. Et les parents, il faut bien le dire.
L'orthophonie est prise en charge, mais le reste, non.
Le psychomote, c'est pareil, c'est pas pris en charge. Voilà. Et donc,
même
pour
les
eux.
Bilans, selon les bilans, selon qu'on a ou pas un psychologue scolaire, si on doit faire un bilan pour déterminer un TDAH, par exemple, il faut aller voir un
neuropsychologue. Ben oui.
Du coup, ça, c'est pas pris en charge et c'est très cher. Donc, il y a des familles qui clairement nous disent, oui, on prévoit de faire le bilan, mais ces 800 euros, on les a pas comme ça.
Voilà. Alors, est-ce que c'est...
Ça doit s'entendre.
Alors, oui, justement, est-ce que ça n'a pas été oublié, ça, de le mettre en place dans notre école inclusive? C'est un petit peu dommage. Parce que la loi sur la refondation de l'école a pour la première fois parlé d'inclusion scolaire en 2015-2016 seulement. Et sur le site gouv.fr, on peut lire ceci. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. La loi sur la revendication de l'école consacre...
Refondation,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Je ne sais pas quoi, mais c'est pas bon.
C'était pas bon. Alors, la refondation de l'école, merci Gérard, consacre pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. Le gouvernement est déterminé à faire de l'école inclusive l'école du 21e siècle. Cette loi doit permettre des personnels d'être mieux formés afin d'obtenir une scolarité de qualité. Alors, qu'en est-il vraiment sur le terrain? On en a déjà parlé au niveau de la formation.
Il faut savoir quand même qu'en 1981, en Angleterre, il y a eu le rapport Warnock. Et en 1996, l'OCDE a défini de façon internationale qu'est-ce qu'un enfant a besoin éducatif particulier. Donc vous voyez, les choses sont très lentes à se mettre en place en France. On parle de 1996.
Oui.
Déjà. Donc ça, c'est pour ça. Et effectivement, alors, je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, mais je pense quand même que l'accessibilité facilitée à un nombre de spécialistes, quand il y a dans un même endroit le psychomotricien, le psychologue, l'orthophoniste, que ce sont des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble dans un même cabinet et qui peuvent croiser les regards, ça facilite déjà les parents beaucoup. Parce que les parents, ils deviennent des ébulons chez nous. Hein. Ils vont à droite pour l'orthophonie. Après, il faut traverser la ville pour aller de l'autre côté pour faire autre chose. C'est très compliqué. Et voilà, c'est vraiment, ça pèse sur le parent de l'enfant à besoin éducatif particulier. C'est pour ça que je pense qu'ils ont cette angoisse aussi de mettre cette étiquette sur leur enfant. Parce qu'après, on va les, quelque part les contraindre à faire tous ces soins. Et parfois, ils n'en ont pas les moyens. Et parfois, c'est d'un point de vue de temps, parce qu'ils n'ont pas qu'un enfant.
Oui, ils en ont oui, des fois plusieurs. Mais il y a un problème aussi en France, c'est avec les orthophonistes. Il y a la Fédération nationale des orthophonistes qui ont envoyé, je crois, au ministère de la Santé un courrier disant qu'effectivement, il n'y avait pas assez d'orthophonistes en France. Et on le voit rien qu'avec les enfants à besoin, comme les enfants 10, ils ne sont pas pris en charge par des orthophonistes. Nous, dans l'Oise, il faut attendre des fois un an de ans pour être pris en charge. Donc pendant ce temps-là, on fait quoi de l'enfant ? C'est vraiment problématique en France.
Oui, puis il y a... Oui, il y a aussi il y a ça. Puis je pensais aussi, moi, nous on est sur Montataire, enfin sur une commune bien précise où on est régulièrement. Et nous on travaillait avec une personne qui était de la mairie, qui était spécialiste, qui dans son rôle c'était la réussite éducative. Donc la réussite éducative, cette personne-là était vraiment le lien entre les parents et toute la problématique du handicap, enfin des besoins des parents et du lien administratif et autres. Donc il faisait ce lien. Entre l'école, le scolaire et aussi tout ce qui était santé médicale. Et les parents qui n'arrivaient pas à trouver, qui étaient un peu perdus dans ces démarches de recherche de différents spécialistes, ben, cette personne-là les aidait et il y avait des spécialistes qui étaient liés à la mairie aussi. Et là, il y aurait peut-être un retour de ce côté-là.
Pour moi, vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est le mot lien.
Oui,
il faut qu'il y ait du lien autour de l'enfant, du lien entre les enseignants, entre eux, du lien entre les enseignants et les spécialistes, du lien entre les enseignants et les parents, du lien entre les parents et les spécialistes. Et il faut qu'il y ait un vrai lien et il faut qu'il y ait des rencontres.
Oui, oui, il faut qu'il y ait tout un maillon, une chaîne qui puisse justement s'informer, aiguiller.
Alors, je pense qu'il faut, comme on parlait d'école inclusive, excusez-moi Nathalie, mais il faut dire aussi qu'il y a des cellules d'accueil départementales de l'école inclusive, sauf que c'est chose que je ne savais pas du tout. Hein. Et dans chaque département, une cellule d'accueil répond aux interrogations des familles concernant le parcours scolaire de leur enfant en situation de handicap. Il y a même un numéro vert unique que je vais donner, 0805 08 05 110, qui va permettre donc de joindre grâce à un serveur interactif et selon le besoin, soit la cellule départementale, soit la cellule nationale d'aide handicap école. Donc là, c'est la première fois que j'entends parler de ceci.
C'est bien, mais c'est complémentaire ça. Mais nous, moi, je le vois dans les quartiers où on est, puisque nous, on est des quartiers REP+, des quartiers sensibles. Les personnes qui sont dans ces quartiers-là, c'est des personnes précaires ont des problèmes de mobilité, donc qui ont des problèmes aussi avec tout ce qui est informatique et autres. Et il faut vraiment quelqu'un un lien physique. Et là, c'est ça qui manque.
Il faut une aide humaine
bien sûr.
Pour les familles, ça c'est clair. Pour moi, dans l'école où je travaille, on a deux personnes, on s'est formé à l'école inclusive, etc. Et nous sommes des professeurs référents au sein de l'école pour nos collègues, déjà, pour leur donner des informations, leur proposer des formations, mais aussi pour les familles. On a des familles étrangères, par exemple, qui n'arrivent pas à remplir les dossiers du GEVASCO, c'est compliqué.
Très compliqué, hein. Oui.
Donc, on les aide. Mais tout ça, c'est à titre gracieux sur notre temps personnel. Donc, au bout d'un moment, le bénévolat trouve ses limites.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que dans notre pays, on compte beaucoup sur le bénévolat des enseignants. Alors, je sais que c'est très à la mode de faire du prof bashing, mais moi, je vais dire chapeau à tous mes collègues aux 300 000 feignasses, 800 000 feignasses, de faire ce qu'ils font, parce que c'est pas... C'est pas évident, on n'a pas les structures et chacun va faire de son mieux avec ce qu'il a sur le terrain. Vous l'avez bien précisé, selon le terrain, c'est différent. Alors vous me parlez de REP+, mais moi je suis dans un quartier plutôt favorisé et je peux vous dire que là on a des parents qui travaillent toute la journée, et qui n'ont pas le temps de trouver du temps pour amener les enfants à un rendez-vous.
Oui, c'est pour tout type de quartier.
Et voilà. Et du coup, bah, c'est le serpent qui se mord la queue. Mmh. Parce que nous, on reste avec un enfant, avec des besoins. Et ça serait tellement plus efficient d'avoir ça au sein de l'école.
Alors, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait une plateforme, je ne sais pas si ça se dit magistère, qui est dédiée à la formation continue des enseignants et qui propose des parcours de formation consacrés à l'handicap. Et ainsi, alors au premier trimestre, alors on repart dans les années 2016-2017, un parcours de formation magistère intitulé « Scolariser les enfants à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap » est disponible. Mais est-ce réellement suffisant pour les professeurs et est-ce réellement leur attente?
Donc je suis dyslexique, donc moi je vais vous parler en images. Si je vous fais un cours théorique sur la mécanique auto, est-ce que vous êtes capable de réparer votre voiture?
Voilà. Si on n'est pas mécanicien, donc, non
c'est très bien d'avoir ça, c'est très bien parce qu'il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais le magistère, donc c'est une plateforme qui ne forme pas que autour des besoins éducatifs particuliers, il y a des tas de formations sur magistère qui sont excellentes. Mais c'est comme les MOOC, il y a différents types de MOOC. Si ce sont les MOOC, ce sont les Massive Online Courses, donc des cours massifs en ligne auxquels on peut s'inscrire. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Souvent, ils sont gratuits et on ne paye que pour avoir le diplôme si on le désire, le certificat à la fin. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous conseiller le MOOC 10 parce qu'il est vraiment très bien fait.
Nathalie, ce MOOC 10 est ouvert à tout le monde, parents, professeurs.
Oui.
D'accord.
Oui, très intéressant. Et du coup, on collecte de l'information, mais la force du MOOC 10, c'est qu'il met les gens en action. On traite des situations, on fait des exercices. Et du coup, on apprend en faisant. Mais si je suis juste assise derrière mon écran et que je reçois une information, c'est très bien, j'ai l'information. Est-ce que ça veut dire que je vais savoir l'utiliser? Est-ce que ça veut dire que face à ma classe de 33 élèves, je vais savoir quoi faire? J'ai l'information. Voilà, c'est déjà bien, moi, je trouve. Mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment aider les enseignants à mettre en place sur le terrain. Parce que on dit, c'est facile, hein, moi, je suis parent d'enfants dyslexiques, je dis, ouais, quand même, le prof, il exagère, il suffit d'écrire un peu plus gros, de changer la police. Mais le prof, lui, il a des impératifs. Je vais parler très terre à terre. Hein. Dans certains établissements, on n'a pas le droit de faire plus de temps de photocopie. Hein.
Dans beaucoup d'établissements.
On ne peut pas faire plus de temps de photocopie. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit la police. On met plus de choses sur une feuille. Et là, ce n'est pas possible pour l'enfant dyslexique, vous comprenez? Donc, pour lui, il va falloir faire quelque chose de différent. Et du coup, ça demande un travail supplémentaire. Alors que si l'enseignant, par exemple, avait la possibilité de faire ses 30 papiers écrits un peu plus gros, ça gênerait pas ceux qui voient bien et ça aiderait l'enfant dyslexique.
Alors, c'est pareil, moi j'ai vu qu'il existait des classes spéciales 10, notamment en Isère. Hein, donc c'est une classe unique en France pour les jeunes atteints de dyslexie ou trouble 10. L'association La Pépinière des Talents, installée à Moirans, donc en Isère, propose des cours uniques en France dispensés à des jeunes atteints de troubles de l'apprentissage et de l'attention, comme la dyslexie, etc. Est-ce que c'est une bonne idée de créer des classes spéciales 10 ou est-ce qu'encore là, on les stigmatise de trop?
À nouveau, je vais vous dire, si ça a été créé, c'est que ça répond à un besoin. Mm-hmm. Donc peut-être que les personnes de cette région particulière ont eu ce besoin-là parce que, je ne sais pas, ils ont trouvé que le système standard ne répondait pas à leurs besoins et que c'était leur envie de se retrouver, voilà. Après, ça crée des petites formes de petits ghettos. Et est-ce que c'est ça qu'on veut faire en France? Est-ce que c'est notre mission de créer C'est comme si dans une classe, je disais, ah, tiens, je fais des groupes d'élèves, et là, j'assieds tous les dyslexiques, là, j'assieds tous les blonds, là, j'assieds tous les bons en maths. C'est un peu gênant quand même dans l'idée. Mais ça peut répondre à un besoin parce qu'il y a un manque. Donc, ce qu'il faut interroger, à mon avis, c'est pas est-ce que c'est bon que ça existe, c'est pourquoi ça existe, quel est le manque qui a provoqué cette création. C'est ça qui est à interroger.
Oui, peut-être, aussi, tu as peut-être raison, effectivement.
Dans ma région, il y a une école spécialisée pour les enfants à haut potentiel. Alors, pourquoi pourquoi il y a cette école qui est là.
Et on en trouve un peu partout maintenant. Nous, dans l'Oise, on a eu des ouvertures aussi.
Si c'est des écoles qui sont complémentaires et pas cloisonnées sur elles-mêmes et qu'elles fassent le lien avec le système normal, pourquoi pas. Ce que voulaient faire les personnes, les associations 10, un projet qu'elles voulaient faire
au départ, qui a été abandonné.
Au départ, c'était des classes temporaires. Et de leur donner tous les outils possibles, prendre quelques élèves. Et après, qui se réintègre dans le système normal scolaire de l'éducation nationale.
On peut imaginer cela en périscolaire aussi, comme on a imaginé un temps les structures ELCO pour l'enseignement de la langue de culture d'origine, comme on peut imaginer des classes de français langue seconde ou de français langue étrangère pour les personnes qui arrivent et qui sont non francophones. Ils ont des temps particuliers où ils vont apprendre le français un peu plus avant parce que ça va leur permettre de mieux s'intégrer dans la vie de l'école ou du collège ou du lycée. Donc ça, c'est très intéressant.
Oui, c'est un peu comme toutes ces écoles alternatives. C'est, si elles sont là, si elles sont créées, c'est parce qu'il y a effectivement un besoin quelque part. Alors, on me fait signe, effectivement, qu'il reste très peu de temps. Je vais juste te poser une dernière question. Pour améliorer la prise en charge des élèves 10, que faudrait-il mettre en place? Est-ce qu'il faudrait aller vers quelque chose comme les anglo-saxons, c'est-à-dire permettre d'avoir déjà des orthophonistes, des psychomotes directement dans l'enceinte des écoles?
Il faut améliorer la prise en charge. Et la prise en charge, ça passe par les spécialistes et la formation des enseignants.
Donc, un gros manque au niveau de la formation des enseignants, donc.
Aussi, par rapport aux besoins éducatifs particuliers, oui.
Très bien. Bon, je crois que c'est la fin.
Oui, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Nathalie d'avoir participé à notre émission.
Avec plaisir.
Cette émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois de décembre, le vendredi 10 à 19h.
10. On parlait de 10.
On parlait des 10, oui.
Quel humour. Le lundi 13 décembre à 16h30, le samedi 25 décembre à 17h, et le mercredi 29 décembre à 2h du matin. Merci à Luc, à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et donnez votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio6valois6mulsien.fr. En vous souhaitant de jolis Noël, bonnes fêtes de fin d'année, ouvrez la porte au Père Noël, mais pas au Covid. Bonne journée.
Merci. Merci,
au revoir.
Bonne journée, au revoir. Merci Nathalie.
De rien.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths, de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie. C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un Brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20h, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzé. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8...